France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, bienvenue en direct ou en podcast sur la 42e rue de France Musique. C'est un provocateur, un artiste né, un directeur de théâtre, un auteur et un metteur en scène qui a dès ses débuts intégré la musique et les chansons à ses œuvres. Depuis 2001, il ouvre grand les portes de son théâtre du Rond-Point aux auteurs vivants et comme lui, certains n'hésitent pas à y proposer des spectacles hybrides, joués et chantés comme Pierre Guillois, Alfredo Arias, Pierre Note ou encore Christian Siméon ou Jean-Luc Revol. C'est peut-être qu'il a, comme Jérôme Savary, aimé bannir les barrières et s'est rangé dès ses débuts sous la bannière du dadaïsme en proposant avec Roland Topor des spectacles où l'absurde prenait l'avantage. Il a aussi bien mis en scène les Brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot que des ouvrages lyriques de Jacques Offenbach. Et la musique est dans son théâtre aussi bien que dans ses émissions de télévision lorsqu'il créait Palace. Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître une somme aux éditions Actes Sud. Ça s'appelle « Issue de secours », c'est écrit avec Fabienne Pascot de Télérama et ça rassemble tous vos spectacles depuis vos débuts au théâtre de Plaisance. Et vous étiez déjà à part auprès de Coppi, de Savary, de Topor, fier de ne pas monter Brecht et de ne pas aimer Villard, disiez-vous. Aujourd'hui, c'est vous qui programmez 42e rue, le quartier de France Musique, dédié au théâtre musical, à la comédie musicale, et vous allez nous faire découvrir votre galerie du théâtre musical français et aussi anglo-saxon. Elisabeth Schwarzkopf. Un choix de Jean-Michel Rime, notre invité, aujourd'hui sur la 42e rue, la Barcarolle, extraite des contes d'Hoffmann. Pourquoi Offenbach? Et d'ailleurs, pourquoi débuter par un morceau si tendre d'Offenbach? Moi, je pensais que vous alliez me mettre un Offenbach très opérette, drôle, atique. Non, c'est super tendre.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux dire que le nombre d'imbéciles qui ne voient le beau que dans les belles choses, peut-être ne voyaient pas le beau dans certaines rigolades et gaietés absolument géniales d'Offenbach, qui sont pour moi absolument une création au-delà de toute limite. Je trouve que c'est faramineux d'avoir mis de la gaieté dans la musique. Je voulais rappeler qu'Offenbach, il écrivait aussi des morceaux un peu plus classiques qui rassurent le bon peuple qui ne voit pas de génie dans la drôlerie. Donc je voulais leur rappeler qu'il avait aussi écrit ça.
C'est un opéra bouffe, un opéra que vous auriez aimé mettre en scène, les contes d'Hoffmann, Jean-Michel Rive?
Non, pas spécialement. Moi, j'ai adoré mettre en scène Le Pont des Soupirs, opéra bouffe d'Offenbach peu connu, dont d'ailleurs on m'avait donné la partition et aussi le script. Enfin, et les textes étaient en morceaux, donc il a fallu que je réécrive les joints. Je me suis beaucoup amusé. C'était en 87 au Théâtre de Paris et on devait jouer 30 fois. C'est une œuvre qu'on a jouée 189 fois avec un succès absolument délirant. Il y avait 1200 personnes tous les jours. Et c'est vrai que c'était, je pense, je suis tellement admiratif et fraternellement proche d'Offenbach, pardon de ce moment un peu d'orgueil, mais je crois que j'avais réussi à mêler un certain nombre de mes folies, de mes fantaisies aux siennes, et ça a fonctionné admirablement.
Alors, votre second choix m'a surpris, votre deuxième choix m'a surpris.
Moi, je suis content de vous surprendre. C'est comme tout à l'heure, vous avez dit que j'étais provocateur, mais si un artiste n'est pas provocateur, c'est pas un artiste, autant s'asseoir dans la rue et regarder les gens. En plus, c'est gratuit.
Il ne faut pas que le public vienne au théâtre et soit repu, il faut le faire.
Non, ce n'est pas ça, c'est de leur montrer qu'il y a de nouveaux espaces. Comme le dit Aragon, il faut creuser des galeries vers un ciel que les gens ne connaissent pas.
Alors, votre deuxième choix m'a surpris, puisque c'est un extrait de R. Mmh. Parce que c'est vrai, votre relation avec la comédie musicale anglo-saxonne, on ne la connaît pas trop. Pourquoi Aquarius, pourquoi R, dans cette version de 1968 à Londres?
Eh bien, pourquoi? Parce que peu de personnes le savent, mais c'est un dénommé Bertrand Castelli, qui n'était autre que le cousin de ma mère, donc quelqu'un qui était très proche de moi, qui a découvert la musique de R dans la rue avec des gens, Matt Delmo, etc., qui l'a joué. Et c'est lui qui a initié R et ensuite qui l'a produit et qui l'a mis dans le monde entier. Et moi, en 1968, il m'avait demandé, j'étais tout gamin, mais j'étais très déjà...
22 ans.
22 ans.
Je peux le dire.
Oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
Non,
ça, moi, personnellement, je ne suis pas censeur. Il m'avait demandé de venir et j'ai été un des assistants de Tom Morgan qui avait monté au Shaftesbury Théâtre de Londres, R. Et donc j'ai suivi la création de près.
Qu'est-ce que vous vous en souvenez? De quoi vous vous souvenez? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Je me souvenais surtout d'une chose, c'est que j'ai dit à Bertrand, mais il faut absolument ne cantonner pas ça dans une réception uniquement anglo-saxonne. Il faut que tu viennes à Paris. Il faut que tu viennes. C'est absolument fait pour Paris. Je le voyais, je le ressentais, etc. Et il a rencontré Annie Farg après. Puis après, ça s'est venu donc à Paris. Et oui, j'ai été évidemment envoûté par cette musique et par cette comédie musicale.
Mais même sur scène, c'était très hippie, c'est très années 68.
Oui, bien sûr, mais à l'époque, on disait pas hippie, on disait que c'était très talentueux, ce qui est plus important que d'être hippie.
Mama falls for derision.
Old and living dreams of nations.
Mystic crystal revelation. And the minds to liberation.
Don't we paint the town and all that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all of that jazz. Oh, stick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at and you shall shake apart and want a brand new start to do a that a jazz.
Oh, you're gonna see your sheep a shimmy shake.
Oh, and all that jazz.
Oh, she's gonna shimmy till her garters break.
Oh, and all that jazz.
Baby's queer for all of that.
Final, huh, Fred?
Yeah, I'm afraid so, kiddo.
Oh, Fred.
Yeah.
Nobody walks out on me.
Jean-Michel Ribes, programme 42e rue aujourd'hui sur France Musique, et a choisi All That Jazz.
Et avant R.
Et avant R. Alors, All That Jazz, pourquoi ?
All That Jazz, parce que ça fait partie de ces musiques que j'ai découvertes, je dois le dire, à travers le film qui était magnifique. Je crois que c'est Bob Fosse, d'ailleurs.
Le film de Bob Fosse, oui.
Oui, Bob Fosse qui l'a réalisé. Parce que c'est quelque chose qui est évidemment une œuvre qui donne envie de vivre. C'est-à-dire qu'on sort de là et on est rempli de cette musique, rempli de cette énergie. Et on a envie de dire, vous savez, Paul Valéry disait « L'homme de génie est celui qui m'en donne ». Et d'une certaine manière, c'est un peu ça. Quand vous sortez d'un film ou d'une comédie musicale ou d'un concert et que tout d'un coup vous êtes plein d'envie, c'est que c'est réussi. Alors qu'il y a des œuvres où vous sortez de là, moi je sors de film, où je me dis « plus jamais je ferai de cinéma ou plus jamais je ferai de théâtre ».
C'est une autobiographie très sombre quand même, All That Jazz de Bob Fosse.
Oui.
Il raconte son métier de metteur en scène à Broadway et on voit qu'il souffre énormément pour faire ce travail.
Oui, mais le problème, c'est pas tellement qu'il souffre que ce soit, le problème est qu'il le raconte et qu'il le met. C'est-à-dire qu'il en fait une œuvre. Et cette œuvre, à partir de ce moment-là, transcende la réalité, heureusement, de la souffrance. Et on est quand même dans une œuvre extrêmement dynamique et je trouve que... Vous savez, finalement, les artistes, c'est quoi ? C'est des gens qui transforment le malheur en bonheur. Et ça, il l'a fait.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Alors, il y en a un qui a commencé par transformer le malheur en bonheur. Il s'appelle Jacques Demy, c'était dans les Parapluies de Cherbourg. Et puis, en 67, il réalise un film beaucoup plus joyeux, entièrement, Les Demoiselles de Rochefort. Vous aviez déjà créé, à l'époque, votre compagnie, avec Gérard Garouste et Philippe Corsan,
oui.
Jean-Michel Ribes, la compagnie du Palladium.
Non, du Pallium.
La compagnie du Pallium, pardon.
Parce que le Pallium, c'était la chaussure des comédiens latins, au moment de l'Empire romain.
D'accord.
Alors que le Coturne, c'était la chaussure des Grecs. Vous voyez que je ne suis pas venu pour rien.
D'accord, bah oui, j'ai appris déjà quelque chose.
Ouais.
Et donc, c'est votre prochain choix, un titre de ce film de Jacques Demy. C'est quelqu'un qui compte pour vous, Jacques Demy ? C'est marrant, on ne l'imagine pas vraiment très proche de votre univers, c'est pour ça. Il n'est pas très absurde, il n'est pas très dadaïste, on va dire, sur le papier.
Bah, d'une certaine manière, d'avoir osé faire Les Parapluies de Cherbourg, qui est une œuvre intimiste, et qui tout d'un coup devient du cinéma, je trouve que c'est un culot incroyable. Incroyable. Alors, plus classiquement, après Les Demoiselles de Cherbourg, c'est évidemment plus classiquement, mais il est, je l'admire parce que c'est quelqu'un qui est, je veux dire, qui a cassé le verre de la convention, qui a cassé le verre de, du ronron, d'un film doit être comme ça, une musique doit être comme ça, et il s'est emparé d'un secteur cinématographique où, en général, ce type d'œuvre n'était pas accepté.
Vous voulez dire le type d'œuvre, genre la comédie musicale en France ?
Non.
Quel
type d'œuvre ? Le type d'œuvre, c'est-à-dire Les Parapluies de Cherbourg, chanter, ça, c'était impossible. Je veux dire, une œuvre intimiste comme ça, chanter, c'était que les producteurs vous disent, mais attendez, ça ne marchera jamais, c'est pas possible, ça va ennuyer tout le monde. Et puis, sur le succès de ça, il a enchaîné avec, de manière sûrement beaucoup plus facile, avec Les Demoiselles de Rochefort. Mais je trouve que d'avoir réussi ça avec Michel Legrand, c'est quand même quelque chose qui est culotté. Et le succès, à mon avis, récompense comme toujours les gens qui prennent des risques.
Et ça vous a inspiré pour la suite de votre carrière ?
Disons que ça ne m'a pas inspiré, mais ça m'a montré qu'il n'y avait pas de genre défini, mauvais ou bon.
C'est moi ?
Oui, ma fleur. Tu m'avais pas dit que tu posais pour les militaires.
Les militaires ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui a fait ce portrait ?
Mais je viens de te le dire, un militaire. Il se dit peintre et poète. Tu vois le genre ? Tu le connais ?
Non. C'est troublant, cette ressemblance. Tu ne trouves pas ?
Simple coïncidence.
Mais c'est tout à fait moi.
Mais pas du tout, c'est platement figuratif. Toi, tu es spirituel, mon âme. Non. C'est un portrait sans valeur. Une œuvre d'imagination. Et il l'appelle idéal féminin en toute simplicité.
Idéal féminin. Comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Comment est-il ?
Lui ? Fade, insignifiant.
J'aimerais rencontrer ce peintre.
Ah, dommage, il vient de quitter Rochefort. Il est à Paris pour quelque temps. Mais c'est absolument pas le genre de type qu'il te faut.
Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais.
Tu sais bien que je sais pourquoi me contredire.
Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire, rire, 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 rire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à rêvasser. Pour toi, je ne suis rien qu'une poupée de plus. Je me demande encore ce qui en moi t'a plu. Tu trouves mes propos plats et incohérents. Que je sois triste ou gaie, te laisse indifférent. Jamais tu ne te poses la moindre question. Tu te moques de moi pour un oui, pour un non, 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 non. Tu dis aimer l'argent encore plus que toi-même. Et moi, où suis-je alors quand tu dis que tu m'aimes? Si tu m'aimais vraiment,
à quoi bon répéter ce que je t'ai redit?
Si tu m'aimais vraiment autant que tu le dis, 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 dis. Quand tu m'as assez vu, soupirerais-tu en disant: excuse-moi, le temps c'est de l'argent. Mais le temps, mon ami, pour moi c'est de l'amour. C'est rire, c'est chanter tant que dure le jour. C'est aimer chaque nuit que le Seigneur a faite. Le temps c'est de l'amour, vivre c'est une fête. Alors n'espère pas devenir mon amant. Tu mens lorsque tu parles de tes sentiments. Non, 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 non. Reprends ta liberté de fille en liaison. Tu trouveras l'amour pour le prix d'un bison. Et puis tu m'oublieras.
Pourquoi tout compliquer quand tout est si facile?
Ton nu s'allumera au battement de cils, 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 cils. S'il te plaît, d'une fille à la voix de velours qui prendra ton argent en te parlant d'amour. Pardonne ma franchise et ma sincérité. Quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies. Et disons gentiment, toi et moi, c'est fini.
Cet arbre fané, avec le jeune homme que j'aime, on va rire toute la journée. Je voulais sortir de mes songes, mais moi je me sais condamnée, car toujours ma nuit se prolonge, on va rire toute la journée. Écoute, je t'appelle, mon beau prince immortel. Réponds-moi, réponds-moi, Manuel. Manuel, réponds-moi. Je lui aurais donné mon cœur pour lui longuement façonner par de tristes et lourdes langueurs. On va rire toute la journée. jour. Mais moi je me sais condamnée, car toujours ma nuit se prolonge. On va rire toute la journée.
Oui.
Vous avez reconnu Jean-Michel Rippe?
Oui, c'est bah voyez, alors là, vous me disiez que j'avais envie de mettre de la musique. C'est une de mes premières pièces qui avait miraculeusement reçu un accueil de public assez formidable au théâtre de Plaisance, dans le 14e. Il n'y avait jamais personne dans ce théâtre. Un jour, j'arrive à voir la présentation, je vois des tas de voitures s'encombrer sur les trottoirs. S'il y a eu un accident, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas passer. Pas du tout. C'était des gens qui venaient voir Il faut que tout ce qui coule après une page dans le monde de Poirot Delpech qui avait été dithyrambique. Et en effet, j'avais, dès que j'ai écrit cette pièce, je voulais qu'il y ait de la musique. Je voulais qu'il y ait un relais musical. Je voulais que les mots se transforment en musique. Et j'avais rencontré, hélas disparu, un compositeur absolument génial qui s'appelait Raymond Le Sénéchal, qui, entre autres, avait écrit beaucoup de choses, mais entre autres, The Good Life pour Armstrong, c'était pas rien. Et il a composé toute la musique. Il y avait 6 ou 7 chansons de cette pièce.
Alors, dans votre livre Issu de secours, vous dites c'était un spectacle dédié à Raymond Queneau. Ça parlait de quoi? C'était une épopée? C'était une fantaisie? C'était quoi?
Moi, vous savez, les définitions, j'aime pas trop parce que ça réduit. Mais disons que c'était l'histoire, c'était une grande balade, c'était l'histoire d'un bateau de croisière, comme ça, qui partait avec un certain nombre de personnages un peu excentriques de sang. René Saint-Cyr jouait une grande actrice qui ne supporte pas de pas être applaudie, donc elle avait un petit enregistreur et tous les quarts d'heure, elle le mettait, c'était des applaudissements pour pouvoir vivre. Et entre autres, il y avait un soutier. Et ce bateau faisait naufrage. Et on se retrouvait sur une île déserte où les choses s'inversaient. C'est-à-dire les gens des premières classes, etc., devenaient, étaient contre-attaqués par ceux de la... et les gens de la soute devenaient les gens qui étaient en premier plan. Donc c'était ça, tout ça raconté par un grand-père à sa petite-fille. On comprenait que ce grand-père avait quelque chose à voir avec Dieu. Donc voilà. Et j'avais demandé à Raymond d'intervenir. J'avais écrit des chansons et c'était absolument magnifique ce qu'il a écrit.
Et les chansons servaient à quoi? Là, en l'occurrence, vous vous rappelez à quel moment ça intervenait, cette chanson?
Oui, ça servait déjà à donner du plaisir aux spectateurs. Et ça servait en plus à lier l'histoire. C'est-à-dire que là, c'était une jeune fille qui était amoureuse d'un type qui s'appelait Manuel et qui était un des passagers du bateau. Et on s'apercevait plus ou moins que c'était quand même quelque chose qui ressemblait au Christ.
Alors ça, c'était en 1971 au Théâtre de Plaisance. Et 7 ans plus tard, au Nouveau Théâtre de la Ville, je crois que c'est une commande de Jean Mercure, vous proposez un autre spectacle qui est un peu un mélange de cabaret, de chansons, un spectacle autour d'un personnage qui a une tentation suicidaire. On a l'impression, même si je ne sais pas en termes suicidaires, c'est pas de ça dont je veux parler, mais c'est presque une autobiographie, l'histoire d'un jeune homme qui est en rupture avec sa famille, sa province, qui monte à Paris et qui va devenir, je crois, reine déjantée de la nuit, c'est ça?
Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est ça. Mais l'idée, c'est que c'était un jeune homme, en effet, en rupture de banc, qui voulait refaire le monde et la société, qui arrive à Paris pour tout faire, il crie, il aboie, etc. Et résultat, le seul boulot qu'il trouve, c'est d'être un aboyeur dans une boîte plus ou moins glauque, de travestis, etc. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans ce personnage, c'est qu'il avait quitté son père, qui était un petit garagiste réac de la province du Nord, qui venait le voir et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui dit « Ce que je fais, je vais te le montrer, je fais du striptease. » Et il faisait devant son père un striptease complet qu'il ne faisait pas, mais simplement pour le provoquer. Je veux dire que cette scène était assez forte. Ça s'appelait Jackie Paradis et j'avais demandé à Lewis Furet, que nous connaissons tous, d'en faire la musique. Et c'était Jean-Jacques Vanier qui dirigeait l'orchestre.
Alors, quel titre voulez-vous écouter, Jean-Michel Rippe? J'ai dans la machine, dans l'ordinateur, sur les platines vinyles de 42e rue, au choix, Jackie Paradise, chanté par Lewis Furet, Tropicana Satisfaction Club Bachi Bachi, chanté par Carole Laure, ou Tango des Lorca, chanté par Carole Laure.
Je ne sais pas, on peut peut-être prendre le rôle-titre. La chanson-titre.
Jackie Paradise, Lewis
Furet. Ce n'est pas Jackie Paradise, c'est Jackie Paradis.
Oui, mais dans l'album, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement de votre... Peu d'enregistrements de vos pièces de théâtre, Michel Rippe. Vous devriez les enregistrer plus souvent.
Oui,
ça serait plus simple pour nous tous.
Oui, oui. Mais en même temps, c'est pas mal.
C'est pas important pour vous.
Non, c'est-à-dire que le théâtre a le charme de l'éphémère.
dreaming about the life you might have led. Jackie hits the streets at midnight. Jackie wants to play. He wants to kiss you neath the lamplight. Wants to take you all the way. Jackie Paradise. Jackie Paradise.
Jackie Paradise.
Watch now. As Jackie grabs his knife, cuts a slice.
Very nice.
Catch him if you can.
Catch him if you can.
Catch him if you can, baby.
Catch him if you can.
Watch now. Two tigers are coming to claim the man. On your guard, gentlemen in the ivory tower. You who tightly hold those reins of power. All my little subject could be, they could rendezvous at the Statue of Liberty, so Jack can shoot you with his 22. Jackie Paradise.
Jackie Paradise.
Jackie Paradise.
Jackie Paradise.
Watch now. As Jackie grabs his knife, cuts a slice.
Very nice.
Catch him if you can.
Catch him if you can.
Hey, catch him if you can, baby.
Catch him if you can.
Watch now.
Je suis la femme d'un homme à la corpulence imposante, un vrai colosse, une bête de 120 kilos, un homme fort, un homme beau, c'est mon mari, c'est mon taureau de Saragosse. Je suis la femme du forain. Mon bonhomme de mari, j'y tiens. Je ne vais pas laisser une professionnelle du cul me faire cocu dans sa piole insalubre. Tu vas me le payer, ma belle. Je suis la femme dont la colère vous fera regarder l'enfer avec dépit, avec envie et impatience. Je suis la femme du forain.
Elle est la foraine offensée, armée jusqu'aux dents.
Je viens me venger de l'offense.
Elle est la femme du forain.
Je suis la foraine en colère, armée jusqu'aux dents.
Elle a un fusil dans les mains,
c'est une carabine.
Elle a le doigt sur la gâchette.
Je suis à bout, je n'ai plus rien. J'avais un homme, c'était mon tour, c'était mon bien.
C'est plus, la vie parfois paraît interminable. Et hop, tout va très vite et c'est la fin.
Je suis la femme du forain.
Elle est la forêt.
Je suis la femme d'un homme à la corpulence imposante.
C'est une carabine.
Je suis la femme dont la colère.
Elle est la forêt.
Fera regarder l'enfer.
Elle est la forêt.
Avec dépit, avec envie et impatience.
Elle est la forêt. Pensée, armée jusqu'aux dents.
C'était un coup de cœur de la 42e rue et elles étaient venues sur notre plateau interpréter des airs de cette, moi je vais dire comédie musicale, Jean-Michel oui. Ribes, oui. Sur les cendres en avant de Pierre Note. C'était Juliette Coulon qui interprétait la femme du forain. Une comédie musicale signée Pierre Note, un portrait de quatre femmes seules, délaissées, mais dans un parfum à la Jacques Demy. Alors c'est l'exemple type du théâtre musical que vous hébergez dans votre théâtre.
On fait plus que l'héberger, puisque Pierre Note, qui est un ami proche et auteur associé, donc tout ce qu'il fait, on le fait au rond-point. Et comme il a cette ubiquité talentueuse d'être à la fois écrivain et qu'il écrit ses propres musiques, souvent on est ravis de montrer ce qu'il fait au rond-point.
Alors vous me disiez, hors antenne, que vous recevez, je crois, 1500 manuscrits par an. Qu'est-ce qui vous intéressait là dans le projet de Pierre Note, lorsque vous avez lu Sur les cendres en avant?
C'est-à-dire que c'était quelque chose de tout à fait singulier, d'original, et qui sortait un tout petit peu de la convention habituelle. Pierre Note, et c'est son talent, fait partie des mauvaises herbes de la culture, et je trouve qu'elles sont souvent plus parfumées que les glaïeuls de l'institution. Donc on est pour les choses qui sont un petit peu, qui ont cette acidité, cette chose qui nous fait réagir. Et je dois dire que le fait que le rond-point existe toujours, on le doit à un public dont on s'est aperçu qu'il était curieux, qu'il était en appétence de nouveautés, etc. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne fais jamais ce que les gens aiment, mais ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. Donc, il y a l'effet de surprise. On a un public très fidèle là-dessus. Donc, ils sont venus nombreux pour découvrir Sur les cendres en avant.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Je crois que la plus mauvaise herbe de l'an dernier, c'était peut-être l'opéra porno de Pierre Guillois. Là, pour le coup, on arrivait au bout du principe de mélanger théâtre, musical et un peu de porno, ou de mauvais goût en tout cas.
Oui, mais vous savez, le mauvais goût est moins épuisant que le bon goût, qui est quand même d'une fadeur au bout d'un moment insupportable. Donc le mauvais goût, c'est quelque chose qui permet de casser le bon goût et d'aller vers un nouveau bon goût après. Mais en effet, il y a quelque chose qui était d'une hypocrisie incroyable, c'est que la pornographie envahit les télévisions, envahit les journaux, envahit les trucs qu'on se passe sous le manteau, personne n'en parle, les enfants, etc., etc. Et c'est vrai qu'on avait voulu faire une satire là-dessus, et quand Pierre Guillois m'en a proposé le principe, j'étais à fond pour, et voilà, et donc on a fait ça. Mais c'était finalement quelque chose de véritablement, je dirais, choquant, dans la mesure où ça attaquait vraiment, sans hypocrisie, le porno, là où il avait quelque chose de plus incroyablement ignoble.
Et qu'est-ce qu'apporte la musique? Parce que nous, on les a reçus aussi dans l'émission 42e rue. On a eu du mal à choisir les morceaux qui étaient diffusés à une heure de grande écoute.
Je suis sûr que vous êtes un amateur de pornographie.
Oui, mais à 13h, c'est quand même compliqué.
Pourquoi? Non, c'est sûr, essayer, c'est pas mal à 13h.
Qu'est-ce que ça change de musicaliser cette chose-là, du coup? D'en faire un opéra?
Ça change rien. Ça permet simplement peut-être de dire des choses avec, comme ça, des mélodies qui enlèvent peut-être le côté rugueux de certaines paroles et qui les rendent d'autant plus drôles. Que sur une mélodie un peu sentimentale, de dire des choses un peu choquantes, c'est plus amusant.
Et quelques années plus tôt, vous aviez proposé à Pierre Guillois de présenter son autre pièce musicale. Alors là, c'était auto-qualifié d'opérette barge autour d'un couple d'hommes dont l'un est enceinte de l'autre. Ça s'appelait Le Gros Lavage et le Ménate, et c'était joué et mis en scène par Bernard Ménez.
La vie, elle est pas drôle, pas tous les jours. La joie, qu'est-ce qu'on se prend comme tôle. Chacun porte sa croix, faut pas désespérer. Regarde du bon côté, y'en a pas, j'y peux rien. Pleure donc, tu pisseras moi. C'est pas marrant, la vie pour la plupart des gens, leur boulot est pourri. Leurs gosses sont délinquants, dommage que la gadou nous arrive jusqu'aux genoux, j'en ai plein les godasses. La soupe à la grimace.
La vie, c'est pas des enfants, sont des Africains, c'est la faute à pas de chance. Pense au petit Mongolien, bientôt le bourri. Tunnel après la pluie, le soleil, et si tu peines à jouir, conserve le sourire.
La vie, c'est triste, qu'elle disait tout le temps ma grand-mère, mes parents ont trimé. Pour une vie de misère, il faut pas me suicider. Je me gabote de cachet, et grâce à eux, j'espère.
La vie, on a parles d'un cadeau au compte pour des prunes. Autoboulot, dodo, c'est vraiment trop débile de se faire tant de billes puisqu'on mourra. C'est con de se faire du mouron.
La vie est un long fleuve où flotte des mâts.
Alors on arrive aux années 88-89, Jean-Michel Ribes, avec la création de Palace. J'ai un peu compris, tout à l'heure vous parliez des Demoiselles de Rochefort. On est tout à fait dans les couleurs des Demoiselles de Rochefort dans Palace.
Ah, si vous le dites.
Non ?
Je sais pas. J'ai pas. Vous savez, moi j'ai sûrement des influences, mais je ne les réalise pas quand je crée des choses.
C'est une revue en tout cas, c'est presque une revue, c'est la revue de Jean-Michel Ribes, ça.
Oui, c'est une revue, mais en même temps, c'est une critique sur le monde de l'argent, sur
bien
le
sûr.
Monde, etc. Mais oui, c'est une revue, et puis ça a été un plaisir fou, grâce à Christian Fechner, qui a produit ça avec une générosité incroyable. C'est un plaisir fou, d'être libre dans 3000 mètres carrés de studio, de pendant 6 mois tourner tous les jours avec une liberté incroyable, sur des textes très écrits par Topor, Grudiot, etc. Et d'avoir eu l'espèce d'envie de tant d'acteurs de venir nous rejoindre.
C'est ça qui faisait comédie musicale, peut-être, ce luxe à l'écran, finalement.
Oui.
Non ? Ce marbre, faux marbre, et tous ces sketchs qui s'enchaînaient.
Oui, je ne sais pas. Il y avait de la musique, oui. Enfin, je ne suis pas sûr que la comédie musicale soit liée au faux marbre, mais, mais en tout cas, oui, on avait la gaieté. Il y avait des danseuses, il y avait des ballets, il y avait Jean Moussy qui avait réglé le tas de choses formidables, Patrick Duterte qui avait fait le décor, etc. Oui.
Ce qui est drôle, c'est que vous considérez, hors micro, vous me disiez, mais pourquoi on ne parle pas plus dans cette émission sur France Musique ? Parce que mes paroles, les paroles, c'est une partition. En fait, c'est ça votre credo. Pour vous, quand vous écrivez du texte, du théâtre,
ah oui,
vous entendez les paroles comme si c'était déjà rythmé,
une percussion. Ah, ça, absolument. D'ailleurs, moi, je suis un peu traversé, j'entends les mots, et c'est vrai que la musique des mots joue beaucoup. C'est pour ça que quand je dirige mes pièces, enfin, la première fois, moi, je les dirige toujours quand elles sont créées, j'amène l'enfant jusqu'à ce qu'il marche. Je laisse les acteurs libres du ressenti, mais sur le plan de l'interprétation, je suis très rigoureux. Vous voyez, c'est comme Feydeau, sans comparaison un peu orgueilleuse, mais Feydeau, il écrivait des partitions sous ses mots. Quand il avait écrit AA, il faisait la partition, parce que AA, ça peut être AA, ça peut être AA, ça peut être AA, ça peut être... Bon, et ça a un sens différent. Donc la musique et le rythme, c'est ça qui donne souvent le sens.
Et quand vous créez une opérette sous Nicolas Sarkozy, qui pastiche Nicolas Sarkozy, à l'acteur qui joue Nicolas Sarkozy, vous lui donnez quelle partition alors ?
Ben non, mais ça, René Lénervé, c'était vraiment... J'en pouvais tellement plus de la vulgarité de ce président de la République. J'avais honte d'être français presque. Au bout de 4 ans, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai écrit cet opéra bouffe qui était plus satiriquement amusant que vraiment méchant. Je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas venu, Sarkozy. Mais voilà, c'était ça me semblait enfin dire ce que je disais sans arrêt, c'est-à-dire que je n'en pouvais plus. Donc à partir, je me suis lâché et pour pas aigre, j'ai fait une comédie musicale composée par mon ami Reinhard Werner.
En lui demandant de penser un petit peu à Offenbach, à Gilbert et Sullivan dans vos numéros quand vous les écriviez ?
Non, je lui demandais de penser à ce que j'écrivais.
Le voilà, le voilà, le voilà. Où est-il, là-bas? C'est celui qui remue, c'est celui qui salue, c'est celui qui s'agite, c'est celui qui va vite. Le voilà, c'est René, c'est René. Où est-il, c'est René, c'est René. C'est celui qui a le lait, c'est celui qui est René.
J'accompagne petit René, il faut m'habiller chic, chic, chic. Car si je plais, c'est le déclic, clic, clic. Des affaires mirifiques, des contraintes atomiques. Un petit tailleur uni pour les États-Unis, ou alors l'Albanie. Un manteau de nabab, au motif baobab. Pour les pays arabes, une écharpe d'hermine pour si jamais je dîne sur la muraille de Chine. Des chapeaux, des bonnets, tout petits et discrets, comme les aime René. Un chemisier austère pour que me considère la reine d'Angleterre. Prévière pour faire une prière à genoux dans Westminster. Ça, c'est pour Tombouctou, une robe froufrou qu'on peut mettre partout. Et puis, pour l'Italie, là je m'enfouis des pieds jusqu'à la tête. J'accompagne petit René, il faut m'habiller chic, chic, chic. Car si je plais, c'est le déclic, clic, clic. Oh, j'oubliais des ballerines, surtout beaucoup de ballerines pour que mon petit chou m'arrive au moins à la fin.
Alejandra Radano dans le rôle de la femme de René dans René l'énervé, cette
Belladonna, oui.
Belladonna dans René l'énervé, ce pastiche de Nicolas Sarkozy que vous avez mis en scène et créé en 2011 avec Ranak Wagner. Vous en avez d'autres comme ça sous les talons des idées de pastiche ou de comédie musicale.
C'est pas tellement
un pastiche,
c'était plutôt un opéra bouffe autour de ce personnage qui était quand même porteur d'une vulgarité telle que ça permettait de faire un personnage tel que Matamor. Enfin, c'était un personnage absolument insensé, qui n'avait d'ailleurs aucun humour. C'est ça qui était drôle, donc ça m'a beaucoup amusé. Mais
vous avez d'autres sujets,
non,
là.
On s'amusait de tout. On s'amusait des écologistes, on s'amusait de la gauche, on s'amusait un peu tout.
Et là, vous avez d'autres idées?
Oui.
Oui. Ça va dans quelle direction?
Ça, je ne peux pas vous les dire.
Faut pas
ça viendra quand ça viendra.
Alors, j'avais envie de refermer cette émission, Jean-Michel Ribes. Là, on a entendu Alejandra Radano, qui est une actrice qui joue beaucoup avec Alfredo Arias. On peut dire que c'est l'un de vos compagnons de route, Alfredo Arias. Vous avez accueilli beaucoup de ses spectacles. Lui aussi mélange musique et théâtre depuis des années. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, tous les deux?
C'est-à-dire qu'on s'est connus il y a très très longtemps. Je ne sais plus c'était quelle année, mais tout début des années, fin des années 70-80, quand il arrivait d'Argentine. Moi, j'étais à Chaillot. Moi, j'ai un grand-père argentin, donc on en avait une petite comme ça consanguinité. Et c'est vrai que je l'ai connu à ce moment-là, quand il était, qu'il faisait luxe, comédie policière, c'est tout à fait esthétique. Et quand je suis arrivé au rond-point, bien des années après, la personne que j'ai appelée d'abord, c'était lui. Je lui dis, venez. Et j'avais vu un de ses spectacles à Chaillot où il y avait Catherine Ringer. Et je dois dire que Catherine était formidable, évidemment. Mais à côté d'elle, il y avait quelqu'un qui était éblouissant, qui était cette jeune femme un peu rousse, un peu sexy, un peu en même temps très généreuse, qui s'appelait Alejandra Radano. Elle est venue dans des spectacles de Alfredo Rond-Point, 3 ou 4 spectacles. Et quand tout d'un coup, j'ai eu envie de mettre une personne absolument exceptionnelle et un peu étrangère dans le premier rôle de René l'énervé, en faisant la compagne de Sarkozy, une chanteuse, pourquoi je ne sais pas, je lui ai demandé et elle est restée en France pour le faire.
Eh ben, on se quitte. Merci Jean-Michel Ribes.
Merci à vous.
Avec un extrait de Tatouage d'Alfredo Arias, qui était au Théâtre du Rond-Point en 2009. Tatouage, c'était la rencontre improbable entre Eva Perón et un chanteur gay qui s'exile au Mexique pour échapper aux persécutions, avec une chanson que je trouve déchirante qui s'appelle Mélancolia. Merci. À bientôt dans vos théâtres, Jean-Michel
J'espère
Ribes.
J'espère, vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous, mon Merci. Cher Laurent.
Viene a mí, avanza. Viene tan despacio, viene una danza leve del espacio.
Cedo, me hago la acción, abuelo, ave, se mece la nave, lenta como el tú, en la brisa suave, niña de las. Amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh, melancolía. Del aliento, dime quién me puede amar.
Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous trouverez la programmation musicale de cette émission faite par Jean-Michel Ribes. Son livre, Issue de secours, coécrit avec Fabienne Pascaud, vient de paraître chez Actes Sud. Et puis le prochain spectacle de Jean-Michel Ribes, c'est à découvrir à partir du 26 février, ça s'appelle Cadoc. C'est sur le monde de l'entreprise et c'est au théâtre du Rond-Point. Vous pouvez vous abonner à 42e rue, le podcast. Vous pouvez nous écrire en passant par francemusique.fr ou par tous les réseaux sociaux existants. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, préparée par Martine Moni, avec à la technique Jean-Michel Bernaud, à la réalisation Céline Parfenoff. On vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric Lodéon.
À réécouter sur francemusique.fr.